Hébreux chapitre 9, on va parler un petit peu de notre héritage dans la Nouvelle Alliance, parce que, oui, c'est ça, la Nouvelle Alliance, on a parlé là-dessus il y a plusieurs semaines, puis c'est toujours intéressant comment Dieu va diriger les messages, parce que avant que Pasteur est parti, je pense que c'était Maxime à penser, on va jaser ensemble pour s'organiser les messages. Mais non, Dieu va s'occuper de ça, d'avoir des messages qui vont ensemble. Et c'est vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup dans le message de ce matin qui va être d'accord avec ce qu'on va voir cet après-midi. Alors, c'est, Dieu voulant, pas trop long, parce que c'est avec le repas du Seigneur. Avec Canberra, j'ai raison. Oui, c'est ça, Jean-Pierre m'a montré, parce qu'il a essayé de trouver le jus de raisin, mais c'était pas juste le jus de raisin. Alors ça contient la plupart de raisins.
Oh.
C'est bon.
Oui,
ça se peut. Alors, en me préparant pour le repas du Seigneur, je vais commencer avec trois questions pour cette étude, cette vérité qu'on va voir dans la Bible. Alors, la première question, pourquoi est-ce qu'on fait le repas du Seigneur? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour ça? Pourquoi est-ce qu'on fait le repas du Seigneur?
Pour se rappeler ce que Christ a fait pour nous.
Oui, c'est ça.
C'est un mémorial, en réalité.
C'est ça, parce que ce que j'ai écrit, un mémoire de moi. Ça, c'est pourquoi.
Ouais.
Mais de quoi se souvient-on?
De son sang qui a versé pour nous, de son
sacrifice. Oui. Puis c'est tout vrai, oui. Mais je pense que si on peut dire une chose, c'est la Nouvelle Alliance. Ça, c'est ce qu'on se souvient. C'est de quoi on se souvient quand on fait le repas du Seigneur. La Nouvelle Alliance. Mais qu'est-ce qui a commencé la Nouvelle Alliance? C'était quoi le commencement de la Nouvelle Alliance? Est-ce que quelqu'un sait la réponse pour ça?
Sa vie, c'est quand il est ressuscité.
Oui, mais en fait, sa mort. Puis, c'est comme un événement, sa mort, sa résurrection. Ah, il est là. Merci.
Tous les Jews. Ah, mais c'est ça là, je l'ai vu aussi, puis il y a moins de raisins dans celui-là que dans l'autre.
Ouh!
Oui, c'est celui que j'ai apporté, il est plus concentré en raisin. C'est
on va juste faire ça. Mais c'est pas grave. C'est pas la loi d'avoir quelle sorte, mais en tout cas. Mais vraiment, la mort de Jésus a commencé la Nouvelle Alliance. Le verset qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans Hébreux chapitre 9, versets 15-17. Alors, on est là, on va commencer dans verset 15 de Hébreux 9. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de Nouvelle Alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et verset 16, c'est le but. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et l'idée de l'alliance et le testament, c'est vraiment comme un testament légal qu'on puisse avoir pour tes enfants. Alors, comme si quelqu'un est mort, le testament dit, quand je suis mort, j'ai telle chose à donner à quelqu'un. Ça, c'est le testament. Mais ça, c'est exactement l'idée de le testament qu'on a en tant que la Bible, le Nouvel Testament. Alors, on va voir l'héritage qu'on a dans ce testament qui était donné à nous par Jésus, par sa mort. Alors, par une illustration, John Graham de Claver House, il était vicomte, c'est quelqu'un qui est juste en dessous d'un comte, en Écosse dans les années 1600. Il était nommé capitaine des dragoons, c'est des soldats qu'il y avait, et a été envoyé pour réprimer les partisans de l'alliance presbytérienne, qui s'appelle les Covenanters, qui luttaient pour le droit d'adorer Dieu selon leur propre conscience. Lorsque la cavalière de Claverhouse a tenté d'interrompre lors de leur réunion, les Covenanters se sont retournés contre leurs ennemis et les ont battus. Claverhouse, furieux, est revenu 3 semaines plus tard et a écrasé les Covenanters à la pointe de Botwell. L'Écosse connaît alors une période difficile. Claverhouse envoie ses dragoons à la recherche des prédicateurs hors la loi. Certains sont tués à vue. D'autres sont emmenés en prison et traités avec la plus grande barbarie. Les Covenanters se réunissent pour le culte là où ils le peuvent, dans les tanières, sur les collines, dans des cachettes. Un jour, une jeune Écossaise, c'est ça qu'on dit? Écossaise, se rendait à l'une de ces réunions lorsqu'elle fut rattrapée par des soldats. Le chef exigea de savoir où elle se rendait si tôt un dimanche matin. Elle était consciente du danger qu'elle courait et du danger qu'elle représentait pour ses amis saints si elle disait la vérité. Mais elle ne pouvait pas mentir. Elle regarda le capitaine dans les yeux et elle dit « Monsieur, mon frère aîné est mort et on lit son testament. Je veux être là pour voir ce qu'il m'a laissé. » Et ça, c'est l'idée qu'on a dans la Nouvelle Alliance. On a un héritage à cause de la mort de Jésus. Nous avons obtenu un héritage. Colossiens 1, verset 12 à 14 dit « Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Tu as noté que c'est « en qui ». C'est « en Jésus ». C'est tout « en Jésus ». Éphésiens, on a parlé de Éphésiens beaucoup, Éphésiens chapitre 1 aujourd'hui, versets 11 à 14. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, on parle de l'héritage qu'on a dans la Nouvelle Alliance et qu'on peut se souvenir quand on prend le repas du Seigneur et à Pâques. Alors, d'abord, il est important de noter que la Nouvelle Alliance a complètement remplacé l'ancienne, tout comme la mise à jour d'un testament légal rend l'ancienne annulée. Lorsqu'on se mettre à jour un testament légal, l'ancien, c'est vide. Tu comprends ça, l'idée? Parce que si maintenant j'ai un testament légal pour mes enfants, mais quand c'était écrit, on avait juste Lydia. Alors les jumeaux ne sont pas maintenant dans nos testaments. Alors lorsqu'on a mettre à jour. Lorsqu'on met à jour nos testaments, l'ancienne, c'est vide, c'est annulé. Ça n'a aucune légalité. Mm-hmm. C'est comme ça n'existe pas. Et ça, c'est la même chose pour la Nouvelle Alliance que Jésus a inaugurée avec sa mort. L'ancienne, ça n'a plus de force.
De valeur légale.
Oui, de valeur légale, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de versets, on ne veut pas prendre beaucoup de temps, alors je vais juste lire plusieurs versets dans Hébreux qui parlent de ça. Hébreux 7, 18 à 19, car... une espèce manque. Car il y a véritablement une abolition du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi ne rendit rien parfait. Mais la venue d'une meilleure espérance le fit, par laquelle nous approchons de Dieu. Hébreux 8, 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui était établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'une blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant « Une alliance nouvelle, et à déclarer ancienne la première, et à déclarer ancienne la première. Or, ce qui est ancienne, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Et aussi dans Hébreux 10, juste en plusieurs versets. « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus et aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des bucs ôte les péchés. » Puis versets 8 à 9. « Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Alors, ça nous montre comment la nouvelle alliance a complètement remplacé l'ancienne. On n'est pas sous la loi. On est sous la grâce parce que la loi était dans la première alliance. Mais la nouvelle alliance, c'est Jésus. Alors, dans cette nouvelle alliance, c'est quoi notre héritage? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager par rapport de notre héritage, une idée? C'est quoi en partie de notre héritage?
L'éternel en Jésus-Christ.
Oui.
Bon, il y appartient maintenant.
Oui.
Des adoptions.
Oui.
Une vie nouvelle.
Oui. Tout ça. Tout ça. Le pardon des péchés, oui. La vie éternelle, oui. Mais si je peux demander dans les mots de le monsieur qui a partagé l'année passée, c'est quoi la réponse?
On est une nouvelle créature.
Mais non. Jésus. C'est quoi notre héritage? C'est Jésus. Jésus est notre héritage. C'est bon. 1 Jean chapitre 5, des bons versets dans 1 Jean chapitre 5. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et verset 20 de 1 Jean 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. Notre héritage, c'est Jésus. Il est notre héritage. On n'a pas le temps pour regardez, mais dans Deutéronome, le tribu de Lévi, les Lévites,
la tribu
des ils n'avaient pas un héritage. Parce que ça dit dans Deutéronome, l'Éternel est leur héritage. C'est le même pour nous. Alors, il est mort pour amener la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance nous a donné un héritage. Et cet héritage est Jésus lui-même. Mais il est mort. C'est comme, ah, j'ai un bon héritage pour toi. J'ai quelque chose pour te donner. Quelque chose qui est mort. Mais il est ressuscité.
Amen.
On a tout ça. Oh, on a un héritage. À cause de la mort de Jésus, on reçoit l'héritage. Mais en plus, on a encore Jésus. Il est toujours là. C'est comme le package deal. On a tous, et c'est dans Jésus. C'est bon? Oui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Alors nous pouvons considérer Pâques comme l'inauguration de la nouvelle alliance, l'inauguration qui nous a donné cette vie en Christ. Et c'est intéressant aussi de voir, OK, c'est quoi qui nous donne cette vie? C'est la mort de Jésus ou sa résurrection? Alors, je pense que c'est beaucoup, beaucoup dedans, la doctrine, la théologie dedans, mais c'est intéressant de noter que la mort de Jésus nous a pardonné de nos péchés. La mort, on est baptisé, c'est-à-dire dans Romains 6, si on est baptisé en lui, on est dans la mort de Jésus. Ça a payé la dette. Quand Jésus est mort, il a dit, c'est fini. En grec, tedelestai. It is finished. La dette est payée. Nos péchés, la dette, c'est fini. Mais, en tant que tel, notre héritage, on est en Christ. Parce que Jésus est notre héritage. Alors, l'héritage de le testament légal, nous a placé en Christ. Mais il est mort. Ça sert à quoi pour nous autres? Mais à cause qu'il a ressuscité, ça nous donne la vie. Parce qu'on est en lui. Alors, il est mort. La dette de nos péchés, c'est payé. C'est pas culpabilité sur nous parce que c'était sur les épaules de Christ. Mais il est ressuscité et ça nous donne cet héritage de vie éternelle en Jésus. C'est la puissance de sa résurrection, la puissance de Pâques qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, on va juste voir trois choses. Juste, on va les nommer brièvement, lire des versets dans Hébreux. Qu'est-ce qui est inclus en Jésus, notre héritage? Parce que le livre de Hébreux, c'est vraiment grandiose. Donc, on avait les choses qu'on faisait dans l'ancienne alliance, les offrandes, les sacrifices, mais Jésus est meilleur. Alors, on va voir trois choses brièvement par rapport à ça. Alors, dans Jésus, notre héritage, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est inclus? La grâce pour faire face aux tentations est inclus là. On peut tourner là ensemble pour lire des versets. Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2. Versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et je ne vais pas lire pour le temps, mais dans 1 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 13, ça parle de Jésus et le moyen de sortir de nos tentations. C'est aucune tentation qui nous prend, mais ce qui est... Je pense le verset en anglais, mais ça parle de Jésus est là pour nous aider dans nos tentations. Alors, c'est quoi qu'on a en Jésus, notre héritage? La grâce pour faire face aux tentations. Et on parle de la grâce, le thème de l'Église maintenant, c'est la grâce. Pas trop loin dans la grâce, on a parlé ce matin, on a encore une responsabilité de suivre les commandements de Dieu, mais pas par, dans un sens légalistique. Mais comme on aime Dieu, c'est pas normal d'aimer Dieu, mais de faire n'importe quoi dans nos vies. Mais quand même, la grâce qui puisse nous aider dans nos tentations. Deuxièmement, en Jésus, notre héritage, nous avons un souverain sacrificateur éternel qui ne cesse d'intercéder pour nous. En Hébreux, chapitre 7, versets 21 à 27. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ça, c'est drôle dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de sacrificateurs? Parce qu'il est mort. Il ne pouvait pas continuer comme un sacrificateur éternellement parce qu'il meurt. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas pour toujours? Parce qu'on meurt. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanent. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Alors, en Jésus, notre héritage, on a un souverain sacrificateur éternel qui ne cesse d'intercéder pour nous. Quel héritage qu'on a!
Amen.
Et troisièmement, on va voir dernièrement, dans Jésus, notre héritage, la rédemption éternelle par son sang. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des bœufs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des bœufs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là, il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et je pense qu'on peut fermer là parce qu'il y a juste un autre passage, mais juste ça pour voir dans Hébreux la rédemption éternelle par son sang. Dans l'ancienne alliance, chaque année, on a dû offrir des sacrifices, mais Dieu, une fois, lui sacrifier lui-même pour nous. Ça, c'est notre héritage en Christ. Alors, on a lu déjà Éphésiens 1, chapitre, versets 11 à 14, qui parlait de la prédestination que nous attend. Alors ça, je pense, c'est une partie aussi de notre héritage. C'est ça qui nous attend encore, la venue de Jésus. Et ça, on peut se souvenir quand on prend le repas du Seigneur, parce qu'on pense, on se souvient quand on prend le repas du Seigneur, Jésus est mort, Jésus est ressuscité pour nous, mais il s'en vient pour nous bientôt. Ça, c'est une partie de la nouvelle alliance, notre adoption. Éphésiens 1, verset 5, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et ça, c'est une partie de notre héritage aussi. Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Cette adoption étant la rédemption de notre corps que nous attendons encore. Et je crois que l'idée d'adoption, c'est quand même plus riche que ça. Mais ça, c'est une partie de ce que nous attend. Alors, une partie de notre héritage est ce qui est toujours à venir. La venue de notre Seigneur et Sauveur, il arrive bientôt. Et ça dit, on peut tourner là pour préparer pour le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11. Parce que ça dit, Jean-Pierre a lu ces versets tantôt, jusqu'à ce qu'il vienne. Ça dit en verset 20, 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors on se souvient de la mort de Jésus qui nous a apporté cette nouvelle alliance, qui nous a placé en Jésus pour avoir un héritage si riche qu'on a en Jésus. Mais dans cet héritage, c'est l'attente qu'on a pour sa venue. Alors, quand on se souvient de la mort de Jésus, lorsqu'on participe à la repas du Seigneur, on aussi se souvient de la résurrection, mais de plus, on peut se souvenir de la venue de Jésus. Tout cela fait part de notre héritage en Jésus, fondé par la nouvelle alliance qui était nous donnée grâce aux événements de Pâques. Alors, quelle glorieuse journée d'avoir le repas du Seigneur à Pâques. Comme Jean-Pierre a dit en préparation, d'avoir Pâques sans le repas du Seigneur, ça, c'est quoi ça? Ça marche pas. Oui, effectivement. Alors, c'est bon de se souvenir de tout ce qu'on a dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est quelqu'un qui dit, pour prendre votre étude fond, grand, mais votre message simple et petit. Et ça, c'était quand même 30 minutes. Aïe, aïe. Désolé, c'était... Ouais. Mais en tout cas, c'est grand.
Et gloire
à Dieu. Oui, ça, c'est... Parce que si on plonge dans tout ça, ça prend 4, 5, 6 heures juste parce que c'est donc bien riche de voir dans Hébreux ce qu'on a dans la Nouvelle Alliance. Mais je prie que ça soit en bénédiction. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur.